Il existe aujourd'hui une multitude de jouets pour enfants et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. On fait de notre mieux avec Sylvie pour vous sélectionner les jeux qui nous semblent les plus adaptés aux enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de Plus+, le jeu de construction qui est né au Danemark et qui offre des possibilités infinies aux enfants de développer leur créativité, leur motricité fine et évidemment leur concentration. Plusieurs gammes très colorées sont disponibles dès 1 an, 3 ans et même pour les adultes. Les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination en bâtissant des constructions libres ou partir de modèles existants grâce aux kits thématiques. La bonne nouvelle, c'est que notre partenaire Plus+ offre aux auditeurs de notre podcast moins 15% sur tout le site www.plus-6plus.fr pendant tout le mois d'avril avec le code DEMAIN tout en majuscule. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte de cet univers unique qui lie jeu et apprentissage, Plus+ sera présent à la Foire de Paris Junior du 27 avril au 8 mai, sur tous les clubs de plage et le Tour de France en partenariat avec le Journal de Mickey, ainsi qu'au Festival des Jeux de Parthenay. Merci à eux pour leur soutien et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Ici Stéphanie Desclèbes, c'est moi, et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants et qui est disponible dans les librairies et en ligne à partir du 4 mai. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site lesadultesdedemain.com. Parler des langues, et notamment celles qui sont moins valorisées dans notre imaginaire collectif, m'a particulièrement remplie de joie. Anna, fondatrice de l'association Dulala, nous partage son engagement pour le multilinguisme, peu importe là où les langues parlées dans le foyer familial. Nous avons ainsi évoqué le contexte du multilinguisme en France, et plus particulièrement à l'école, les bienfaits chez les enfants de l'acceptation de toutes ces langues, et surtout, la richesse au quotidien, et pour tous, d'être nourri par toutes ces cultures. Profitez bien de cette écoute et à très bientôt. Bonjour Anna.
Bonjour Stéphanie.
Comme je vous le disais hors enregistrement, je suis très heureuse de pouvoir parler de multilinguisme aujourd'hui avec vous, tant les langues ont toujours eu une place particulière dans mon éducation. Et avant que l'on démarre, je souhaite vous présenter rapidement. Vous êtes la fondatrice et directrice de l'association Dulala. Vous êtes mère de 3 enfants franco-italiens. Vous parlez 6 langues. Et enfin, les langues ont toujours eu une place importante dans votre parcours professionnel, puisque cela a notamment été le sujet de votre mémoire de recherche-action. Et je voulais donc savoir, pourquoi est-ce que vous dites que le multilinguisme est une chance pour tous les enfants ?
Alors, le multilinguisme est une chance pour tous les enfants, parce que les sociétés dans lesquelles nous vivons, la société du 21e siècle qui est la nôtre, est de fait multilingue. La mondialisation, l'immigration, les mouvements des personnes qui se déplacent pour des raisons très différentes, des raisons économiques, climatiques ou personnelles, et ben font que la société dans laquelle nous vivons a été profondément modifiée. Il y a eu d'abord d'immigration de personnes venant de Pologne, Italie, Espagne, Portugal, et puis des personnes arrivant de Maghreb, Afrique noire, etc. Donc la société qui est la nôtre est une société qui est multilingue et multiculturelle. D'ailleurs, les sociologues parlent de société marquée par la super diversité. Donc, une grande diversité des langues et des cultures. Et les enfants qui savent jongler entre plusieurs langues et plusieurs cultures ont alors un vrai atout, hein, savoir vivre avec leur temps et puis être aussi des ponts entre des mondes très différents, être des bâtisseurs aussi, de paix en quelque sorte.
Est-ce que vous avez déjà observé des bienfaits prouvés chez les enfants du fait de parler plusieurs langues ?
Oui, alors les enfants bilingues ou plurilingues, ce sont des enfants qui ont une plus grande facilité à apprendre d'autres langues par la suite, mais aussi des enfants qui ont une plasticité cérébrale parce que parler plusieurs langues participe à la réorganisation constante du cerveau. D'ailleurs, il y a des études qui montreraient que les sujets bilingues ou plurilingues développent la maladie d'Alzheimer plus tardivement que les autres sujets. Puis, il y a également un entraînement finalement des fonctions cognitives, parce que parler plusieurs langues favorise l'attention sélective. On est toujours en train de bloquer une langue pour activer l'autre. Une flexibilité cognitive et puis aussi une pensée divergente qui permet d'envisager des multiples solutions en question donnée. Donc, trouver des solutions nouvelles à des problèmes qui se posent. Et puis, enfin, ces enfants profitent finalement d'une plus grande décentration, plus grande empathie et une ouverture sur les mondes. Parce que parler plusieurs langues, c'est aussi adopter différentes façons d'apprendre les mondes, hein, tout simplement.
Comment avez-vous vécu dans votre enfance le fait d'être multilingue ?
Alors, moi, j'ai grandi avec deux langues, le vénitien, qui était parlé par mes grands-parents, et puis l'italien, qui était la langue parlée tout autour de moi. Moi, j'ai eu honte du vénitien, langue parlée par mes grands-parents, parce que c'était une langue qu'il fallait pas parler aux petits, au risque de les embrouiller quand ils rentraient à l'école. Et donc, cette langue, je l'ai ressentie comme un handicap. Et je portais un regard aussi négatif envers mes grands-parents qui me parlaient cette langue. Et puis, plus tard, à l'adolescence, j'ai eu honte d'avoir eu honte. Et je pense que Dulala, le projet de l'association que j'ai fondé, s'inscrit aussi dans cette dose d'indignation que j'ai ressentie en étant petite, adolescente. Et c'est ça aussi, c'est un levier qui m'a permis de construire ce projet systémique que nous portons.
Et comment ça se passe aujourd'hui avec vos enfants ?
Alors aujourd'hui avec mes enfants, ça se passe de la manière suivante. Moi je parle italien, mon mari est français, il leur parle français. Entre nous on parle entre adultes, donc avec mon mari on parle italien et on parle français en France et italien en Italie. Et j'essaye de garder au maximum le lien avec l'italien par d'autres locuteurs, donc des copains qui habitent aussi à Paris. On a toujours eu la chance d'avoir des nounous à la maison italophones pour m'aider dans cet accompagnement, dans cette construction de la langue italienne, parce que la transmission de sa propre langue ne va pas de soi. Hein, quand les enfants rentrent à l'école, c'est tout de suite le français qui prend le pas, et c'est normal. Donc, une langue se construit aussi grâce à une communauté de locuteurs, et quand on est migrant et que on se retrouve tout seul dans un pays sans pas d'autres possibilités de parler la langue maternelle, et il faut démultiplier les efforts en fait pour cette transmission. Donc, par exemple, à Dulala, les premiers groupes de jeux en italien ont été en réponse. Tout d'abord personnel, hein, parce que j'avais envie que mes enfants pratiquent cette langue, pas seulement avec moi, adulte, mais aussi avec d'autres enfants du même âge. Et puis, il y a d'autres groupes de jeux, d'autres ateliers qui sont arrivés dans bien d'autres langues.
Parce qu'on entend souvent dire qu'apprendre plusieurs langues dès le plus jeune âge aux enfants risque de les embrouiller ou risque de retarder le langage chez l'enfant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Alors, je pense que c'est une idée reçue. On ne se pose pas la question quand un enfant est monolingue d'un éventuel retard du langage. On se dit que il a développé d'autres aspects finalement de son développement. C'est quelqu'un qui a parlé, qui a commencé à marcher plus tôt, par exemple. Et donc, c'est évidemment logique de lui donner plus de temps pour construire, investir le langage. Alors que quand un enfant est bilingue ou plurilingue, tout de suite, son bilinguisme est mis en cause comme un problème. Alors que pas du tout. On sait que la langue maternelle est la porte d'entrée dans le langage Et c'est un outil, finalement, la langue maternelle, la langue familiale, qui est essentiel pour pouvoir construire cette faculté, le langage, qui se développe jusqu'à l'âge de 6 ans et 7 ans. Et plus l'enfant développe cette faculté avec goût, sécurité, et bah plus il aura des chances d'apprendre en deuxième, en troisième langue par la suite.
Donc vous conseillez pour toutes les personnes qui ont des parents bilingues et qui sont bilingues de pratiquer les deux langues le plus possible dès le plus jeune âge.
Oui, tout à fait. Alors c'est une chance pour les enfants, pour la famille, ce bilinguisme, ce plurilinguisme, évidemment. Après, c'est très important, je pense, de parler, discuter de ce projet de transmission bien avant que l'enfant arrive au monde. Hein. On peut être en phase, mais aussi on peut ne pas l'être. Et il est important, donc, il me semble que les envies, les possibilités, les besoins de chaque parent soient posés sur la table avant que l'enfant arrive. Et il faut aussi garder en tête que, quels que soient les projets linguistiques qu'on porte et qu'on essaie de transmettre, on ne peut pas choisir à la place des enfants les langues que ceux-ci vont pouvoir investir ou pas. Hein. C'est eux qui vont s'approprier ou pas la langue transmise. On voit des enfants qui comprennent tout ce qui s'est dit dans la langue familiale, mais qui ne la parleront pas. D'autres, au contraire, qui l'investiront dès les babillages. Et d'autres encore qui commenceront à la parler à l'adolescence ou à l'âge adulte. On a envie à l'adolescence de se réapproprier aussi de cette identité, et ça passe par la langue, ou alors parce que la vie fait que on va habiter ou étudier dans les pays natals d'un des parents. Il y a aussi des enfants qui ne souhaitent pas investir cette langue pour des raisons très différentes.
Oui. Et comment faire lorsque le système scolaire ne s'adapte pas à ce multilinguisme qui est intégré à la vie de famille?
Alors, je pense que c'est important aussi d'expliquer aux enseignants ou aux professionnels de la petite enfance, parce que ça commence dès la crèche en fait, l'importance de la langue familiale pour les enfants, pour la famille, pour les parents. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre ce temps-là. Je pense que c'est important aussi de renvoyer ou de transmettre des informations aux professionnels de la petite enfance, de la santé, de l'enseignement. Il y a aujourd'hui beaucoup d'informations sur le sujet qui sont diffusées par Dulala, mais aussi par évidemment d'autres universités, associations, etc. Je pense qu'il faut de la formation aussi, qui est indispensable pour les professionnels de l'éducation. Donc ça commence de plus en plus, on voit des INSPE, donc des instituts d'enseignement pour les professeurs des écoles, intégrer des modules sur la prise en compte de la diversité linguistique et culturelle dans les écoles. On voit aussi que beaucoup d'enseignants qui travaillent avec des enfants allophones, notamment dans les CASNAV, qui sont les centres qui accueillent des enfants nouvellement arrivés, et qui sont sensibilisés et qui ont produit des outils, des ressources absolument magnifiques et qui sont en train d'être partagés aussi par des enseignants de classes dites ordinaires. Donc je pense que l'éducation plurilingue et interculturelle est aujourd'hui un enjeu majeur pour les sociétés qui sont les nôtres et pour construire aussi une éducation à la citoyenneté qui est précieuse. Donc c'est important d'avoir cette conscience que accepter, valoriser et faire en place aux langues des enfants est quelque chose de très bénéfique pour ces enfants qui portent avec eux une identité plurielle et qui peut être enfin reconnue à l'école, mais aussi pour tous les enfants parce qu'il y a un enjeu d'éducation à l'autre, à l'altérité, et c'est précieux dans les temps dans lesquels on vit.
Que répondez-vous justement aux critiques qui associent multilinguisme et séparatisme ?
Je dirais que les pratiques linguistiques en France aujourd'hui sont source des discriminations et que ce qui est dangereux là, ce sont ces amalgames hein, qu'on entend aujourd'hui entre langue, pays, origine, religion. Et pourtant, on le sait, une langue n'est pas responsable des comportements des locuteurs, ni en bien ni en mal. Hein. Il n'y a aucune relation, d'ailleurs, entre l'allemand et le nazisme, entre le russe et le communisme, entre l'arabe et l'islamisme radical, entre l'anglais et le capitalisme libéral, etc. Et que, contrairement aux religions, eh ben, les langues permettent des identités, des appartenances multiples. On peut être bilingue et plurilingue, alors qu'on ne peut pas être à la fois chrétien et musulman, par exemple. Et que l'expérience même de la pluralité des langues, conçue comme des constructions intellectuelles, et non pas comme des armes au service de combats identitaires, eh ben, nourrit l'apaisement et l'ouverture à l'autre.
C'est vrai. Parce que quelle est la situation en France au niveau du multilinguisme aujourd'hui, si vous deviez dresser un court panorama de comment il est perçu et intégré dans nos vies ?
Alors, la France est un pays qui est monolingue dans ses politiques linguistiques, mais qui est plurilingue de fait, comme je l'expliquais au tout début de l'interview. Alors, la France s'est construite sur un modèle jacobin de monolinguisme. L'article 2 de notre République pose le français comme langue de la République. Et ça, c'était un avantage considérable, effectivement, pour faire unité tous ensemble, pour construire un État-nation. Mais ça aussi crée finalement une disparition très, très négative de la diversité linguistique du territoire français. On pense notamment aux langues régionales, au breton, à l'alsacien, à l'occitan, etc., qui étaient bannis des bancs de l'école. On n'avait pas le droit à l'époque, à la fin du 19e siècle, et puis aussi au début du XXe siècle, de parler breton, par exemple. Les enfants étaient punis, étaient stigmatisés s'ils parlaient cette langue, alors que c'était leur langue natale. Hein. Et souvent, ils arrivaient à l'école sans parler français. Donc, on est un peu fils de cette idéologie monolingue. Et aujourd'hui, les choses évoluent de plus en plus. Donc c'est très positif, mais il reste encore pas mal de chemin à faire.
Et si on doit dresser la situation à l'école, comment est-ce qu'aujourd'hui l'apprentissage des langues et surtout l'intégration de ce multilinguisme est pris en compte ?
Alors aujourd'hui, il y a un multilinguisme porté, construit par l'apprentissage des langues vivantes à l'école, donc c'est les français, c'est l'anglais, l'allemand, l'espagnol principalement, mais les langues des familles, les langues natales des enfants ne trouvent pas véritablement de place à l'école, ou alors dans les cadres de quelques projets pédagogiques ou quelques initiatives par-ci par-là. Alors que aujourd'hui, il y a des ouvertures là-dessus. Il y a, par exemple, au sein de l'éducation nationale, une semaine des langues qui a été promue et qui est célébrée au mois de mai, une semaine dans laquelle les enseignants peuvent célébrer la diversité linguistique. Et pas seulement avec les langues qui sont enseignées à l'école, mais aussi avec les langues des familles, en prenant en compte les langues des enfants et des parents. Et cette initiative, je ne suis pas sûre que tous les enseignants la connaissent, par exemple. Donc nous, notre travail à Dulala est de profiter de cette porte qui s'ouvre pour pouvoir injecter du multilinguisme, qui ne veut pas dire enseigner toutes les langues présentes dans une classe. Parfois, on est en présence de multitudes de langues très différentes, Mais l'idée, c'est de pouvoir faire une place à ces langues, les découvrir, les explorer, les goûter, les mettre en bouche à travers des comptines, à travers des histoires. On peut imaginer que des fonds plurilingues se constituent au sein d'une école. Par exemple, à Dulala, on a lancé un concours des créations d'histoires au format du kamishibai, qui veut dire théâtre de papier. C'est une technique narrative qui vient du Japon. Et à Dulala, on a lancé un concours pour accompagner les professionnels d'éducation à imaginer, écrire, illustrer avec leur groupe d'enfants des histoires. Des histoires plurilingues. Donc, il y a le français qui tient le récit, qui permet la compréhension de l'histoire, mais il y a d'autres langues au statut varié, au moins 4 autres langues, qui vont se glisser dans les histoires. Par exemple, chaque personnage parle une langue différente, ou alors à travers l'intégration de quelques comptines, ou voilà, des chiffres dans d'autres alphabets, etc. etc.
C'est super. J'en profite pour vous laisser la parole pour parler de Dulala et nous expliquer concrètement ce que fait l'association.
Alors, Dulala est l'acronyme de d'une langue à l'autre. Donc, on entend tous les travaux des ponts, des passerelles qu'on essaye de faire entre les langues. Mais évidemment, derrière une langue, il y a toujours des locuteurs. C'est une association à but non lucratif, dont la vision est que le multilinguisme de notre société puisse être un levier pour favoriser l'égalité des chances et lutter contre les discriminations. On sait que quand on parle français, anglais ou allemand ou espagnol, ben, c'est une chance. Le bilinguisme est visible, est reconnu, est valorisé. Quand on parle français, arabe, tamoul, soninké, etc., et ben, souvent les représentations ne sont pas du tout les mêmes. On est face à des bilinguismes qui sont plutôt invisibles, contrariés, parfois stigmatisés. Donc, dans ce sens-là, on essaie de lutter contre la discrimination. Et pour le faire, nous accompagnons les familles, mais aussi les enfants et les professionnels de l'éducation à travers des ateliers, des rencontres et surtout des formations pour que les professionnels, notamment, puissent s'approprier des outils et des démarches afin de prendre en compte la diversité linguistique et culturelle et en faire une ressource pour tous les enfants. Alors, nous créons des ressources pédagogiques comme des albums plurilingues. Les derniers viennent tout juste de sortir. C'est l'album « Comment tu dis ?» qui est un imagé en 12 langues différentes, qui a été coédité avec les éditions Syros. Les mêmes éditions qui ont produit d'autres albums plurilingues comme « Galinella » et « Chaprouchka ». Vous avez eu récemment l'invité à votre podcast qui était l'auteur de ces albums, Elsa Valentin.
Ouais.
Tout à fait. Voilà, avec qui nous travaillons, donc des albums, je vous disais, mais aussi des boîtes à histoires qui contiennent des objets symboliques qui se mettent en place et qui peuvent permettre de raconter des histoires dans tout plein de langues, hein. Parce que justement, on sort de l'écrit, donc d'un texte figé, et on peut raconter des histoires alors que une langue peut être seulement orale. Et puis, on développe également beaucoup de jeux. Mais on développe également des ressources informatives comme des livrets, des vidéos pour disséminer et vulgariser les informations autour du bilinguisme et du plurilinguisme. À chaque fois que nous produisons des ressources, nous les faisons avec un comité scientifique, donc des chercheurs qui travaillent avec nous, mais aussi des artistes et des professionnels du terrain. Voilà, donc c'est ce projet systémique pour des publics différents, que ce soit des parents, enfants, professionnels, et penser aussi de façon plurielle avec des chercheurs, des enseignants, des professionnels de la petite enfance et des artistes parce que les langues, ce sont des objets d'art et il y a une dimension esthétique très très forte derrière chaque langue qu'on essaye d'explorer à travers des matériaux sensibles. Et les artistes nous aident grandement là-dedans, que ce soit des auteurs, écrivains comme Elsa Valentin ou des illustrateurs, illustratrices comme Florie Saint-Val, Julie Scorissa. Et puis, on travaille beaucoup aussi en lien avec une autre association qui s'appelle les Tables des Matières, hein, composée par une designer, mais aussi une artiste plasticienne qui nous aide, nous accompagne à penser des outils pédagogiques, notamment des littératies, donc qui permettent de rentrer dans les histoires, des histoires en français, mais aussi dans d'autres langues.
Et vous avez l'impression, depuis le début de votre travail, que l'évolution des mentalités se fait sur ces langues que vous disiez qui sont peut-être moins valorisées, comme l'anglais, l'allemand, l'espagnol, mais sur ces autres langues, comment est-ce que vous voyez cette évolution au sein de la société sur comment on les valorise ?
Oui, alors oui, il y a une évolution. L'association a été créée en 2009 et je me rappelle qu'à l'époque, effectivement, il y avait beaucoup d'idées reçues, des peurs, des préjugés sur les bilinguisme, le plurilinguisme. Aujourd'hui, je pense que les informations commencent à circuler et que de plus en plus de professionnels sont bien informés sur ces sujets. Il y a aussi une évolution de représentation, je trouve, sur les bilinguismes avec, et les plurilinguismes avec toutes les langues et pas seulement avec les langues valorisées de façon plutôt internationale comme l'anglais, etc. Donc il y a des choses qui bougent, mais cette transformation reste quand même assez lente. Elle n'est pas si rapide comme on le souhaiterait. Mais il y a des choses qui bougent. Il y a aussi le mot glottophobie qui a été inventé par Philippe Blanchet, qui est un sociolinguiste, un professeur des universités à l'Université des Rennes, qui a posé ce mot pour la première fois, en 2016, je crois, à peu près. Et la glottophobie désigne les discriminations liées aux accents et aux langues. La glottophobie est punie par la loi et elle est reconnue comme un critère de discrimination à part entière, tout comme la couleur de la peau, les origines, le sexe, etc. Donc il y a des choses qui bougent, heureusement.
Et il y a une idée reçue qu'on entend souvent quand on parle de ce plurilinguisme, je trouve, c'est que si on met en avant ces autres langues qui ne sont pas le français, cela risque de se faire au détriment de l'apprentissage du français. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors là aussi, ce sont souvent des peurs qu'on a avec certaines langues, n'est-ce pas ? On ne se pose pas la question avec l'anglais. On ne se pose pas la question avec l'allemand, par exemple. On ne se pose pas la question avec les japonais. Par contre, on se pose la question avec d'autres langues, notamment les langues d'immigration économique. Mais pas que. Et il y a effectivement cette idéologie de cette peur de qu'une langue puisse chasser une autre langue. On a l'habitude de se dire on s'est construit avec une langue ou l'autre, alors qu'on peut se construire avec une langue et une autre langue, et que les langues peuvent se nourrir les unes avec les autres. On parle de compétences métalinguistiques, des compétences quand un enfant apprend une langue, la langue maternelle, et cet apprentissage s'est fait de façon structurée, dans le goût, dans les plaisirs, et ben cet enfant sera outillé pour transférer aussi des connaissances, des compétences dans une autre langue. Et c'est ça qui est important d'avoir en tête, notamment pour les professionnels de l'éducation qui vont accueillir des enfants qui peuvent arriver à l'école avec une autre langue dans leur poche et qui ont déjà des connaissances, des compétences. Et les nier ou ne pas les reconnaître empêche, mutile les enfants aussi dans l'apprentissage de la langue française. D'où l'importance de créer des ponts et de favoriser, de légitimer ce transfert des compétences chez les enfants.
Et d'ailleurs, ces discriminations-là, on les voit continuer tout au long de la vie, je suppose. Bon, je sais que votre travail se concentre plutôt sur les enfants, mais je suppose qu'il y a aussi de grands chantiers sur l'âge adulte aussi.
Absolument. Ben alors là, je peux vous faire un petit... je vais vous raconter une petite histoire. On cherchait à recruter quelqu'un au sein de l'association et cette personne a envoyé le CV en ne mentionnant pas les langues parlées. Ou plutôt, en mentionnant les langues parlées, apprises à l'école, comme l'anglais et l'espagnol, mais pas du tout en mentionnant le Douala, par exemple, qui était la langue parlée. Et donc ça montre bien finalement l'intériorisation d'un certain regard, d'une certaine image que les locuteurs même peuvent porter de leur langue familiale. Même quand on postule à Douala, où cette diversité est recherchée et bénie.
Ouais, c'est dingue. Mais heureusement que vous êtes là pour faire évoluer les mentalités. Il y a encore du chemin.
Il y a du chemin, il y a du travail.
On arrive déjà à la fin. C'est vraiment passionnant tout ce que vous nous partagez. J'aimerais repartir avec un dernier conseil pour les parents qui nous écoutent et qui sont issus de plusieurs milieux culturels, avec plusieurs langues à la maison. J'aimerais savoir si vous aviez des derniers conseils à leur partager, notamment lorsqu'ils s'apprêtent à éduquer des enfants dans leur foyer.
Alors, je leur dirais que chacun fait comme il peut, de ne pas se mettre trop de stress ou d'attente non plus sur cette transmission linguistique. De toute manière, comme je le disais au début de notre interview, ce sont les enfants qui vont choisir et vont être acteurs finalement de leur langue. Chacun fait comme il peut parce que c'est une question qui est complexe, qui demande aussi un accompagnement. Donc, ne pas hésiter à s'appuyer sur des associations, des acteurs éducatifs, que ce soit des professionnels de la petite enfance, des enseignants, pour en parler, pour en discuter, pour soulever aussi des peurs, des angoisses, et puis aussi sur la communauté des parents autour d'eux. Les parents sont experts, s'écouter et faire un choix qui soit choisi et pas subi. Donc si on a envie de transmettre une langue, de le faire sans complexe, sans peur, sans crainte, c'est un très beau cadeau qu'on peut faire à son enfant. Mais si on décide de ne pas le faire pour des raisons qui sont propres à chaque parent, parce qu'on peut aussi venir d'un pays où on a envie de gommer finalement une histoire douloureuse, et ça passe aussi par la langue, et cette transmission se fait aussi, ça peut se faire différemment. Il n'y a pas qu'une stratégie, une voie, mais il y a autant de formes de bilinguisme, de plurilinguisme et de transmission que de locuteurs finalement.
C'est vrai. J'ai une toute dernière question. Qu'est-ce que vous pensez des parents qui se lancent le défi de parler plusieurs langues à la maison alors que ce n'est pas nécessairement leur langue natale ?
Là encore, je pense qu'il n'y a pas de recette unique. Je pense que si la langue est une langue qui est une langue de cœur, une langue à laquelle on tient beaucoup parce que on a vécu longtemps à l'étranger, par exemple pour des études, ou parce que on a un vrai amour pour cette langue, cet enfant va pouvoir se nourrir finalement de cette passion, de cet amour, de cette langue de cœur. Après, je suis beaucoup plus critique et avec des transmissions, avec des langues qui font l'objet finalement d'une recherche de performance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, beaucoup de parents, par exemple, qui transmettent l'anglais à leurs enfants alors que c'est une langue que finalement n'est pas n'est pas une langue qui est vraiment maîtrisée et qui ne représente pas grand-chose pour ses parents. Donc là, la transmission me semble assez vidée de sens.
Je comprends. Eh ben, merci Anna d'avoir été présente aujourd'hui. Merci aussi de vous engager pour une si belle mission dans le cadre de votre travail auprès de l'association Doulala. Je partagerai tous les liens dans la description de l'épisode, mais également sur les réseaux sociaux, parce que j'admire vraiment ce que vous faites au quotidien.
Eh ben, un grand merci à vous, Stéphanie, pour cette opportunité de faire connaître notre travail.
Avec plaisir. Je vous dis à très bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclaies.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de Demain.